Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors, je vous avais promis un invité mystère. Aujourd'hui, je reçois dans cet épisode Major Mouvement. Salut.
Salut Théo, ça va?
Ça va et toi?
Ça va très très bien, je suis super content d'être là.
Eh ben, c'est un plaisir pour moi aussi et je pense que ça va être un plaisir pour pas mal de mes auditeurs parce que il faut savoir une chose déjà, c'est grâce à eux que je t'ai connu sur Instagram.
Bah ça, bah merci à tous tes auditeurs justement qui m'ont permis de te faire connaître ou l'inverse, mais en tout cas merci à eux.
Ben non, mais c'est moi je trouve que c'est une bonne chose comme ça, l'entraide et puis le partage, parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui font enfin des bons contenus, on n'a pas toujours l'opportunité de tomber dessus. Donc on va voir, on va parler de ton activité tout simplement, hein. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer ce que tu fais, ben à la fois sur Internet et à la fois dans ta vie professionnelle, quoi.
Ok, ça marche. Donc, Major Mouvement, c'est un pseudonyme. Je suis kinésithérapeute, thérapeute manuel. J'exerce depuis 10 ans en thérapie manuelle, aussi en kinésithérapie du sport. Et je suis en même temps enseignant au sein de l'Institut de thérapie manuelle de Paris, à savoir une école pour les kinés diplômés qui leur permettent de se spécialiser en thérapie manuelle. Et je suis enseignant chez eux. Donc, je travaille dans un cabinet où j'ai essentiellement des jeunes qui ont entre 20 et 60 ans, et j'ai bien dit jeunes parce que je considère que l'âge, c'est essentiellement dans la tête, et qui viennent régulièrement pour souvent les mêmes problèmes, des problèmes de dos, des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux. Et depuis des années, en fait, j'avais l'impression de répéter souvent la même chose. Alors pas avec une certaine forme de lassitude, mais vraiment avec toujours la même énergie et d'être surpris de voir que ce que je répétais, en fait, était toujours du domaine du nouveau pour mes patients. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon message puisse être entendu par le plus grand nombre, pour faire en sorte que quand les gens viennent me voir pour un problème de dos, quand je leur parle de l'extension ou quand je leur parle d'étirer un psoas, de venir étirer un piriforme, et que ce soit pas du nouveau pour eux. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser les réseaux sociaux pour ça. Donc ça, c'était principalement le but du jeu de ma démarche. Et de voir que finalement, là, j'ai créé ça il y a 3 mois et j'ai un très, très bon retour de la part des gens qui me suivent. On arrive normalement, je pense, d'ici la fin de la semaine à 10 000 abonnés en 3 mois. Je suis personnellement tout nouveau sur Instagram. Les réseaux sociaux, à titre personnel, je n'y étais pas depuis 5 ans. Ouais. Mais il semblerait que ce soit une belle progression.
Ouais, non, mais de toute façon, c'est clair que quand tu fais quelque chose de propre, de qualité, et puis on sent la passion, en fait. C'est ça qui m'a interpellé, c'est on sent la passion par la qualité du contenu, etc. Et puis t'as pas parlé, t'as une chaîne YouTube aussi.
C'est ça, j'ai lancé une chaîne YouTube qui prend un peu plus de temps à se lancer parce que, contrairement à Instagram, qui est un vrai réseau social qui permet vraiment d'échanger avec les gens, YouTube c'est du contenu propre. Donc quand on se lance sur YouTube, on est vraiment déjà caché par toutes les grosses chaînes. Et pourtant, en termes de qualité de support, je pense que les vidéos que je fais sur YouTube sont sûrement mieux faites parce que j'ai plus de temps pour expliquer.
Voilà, ouais.
Tandis que sur Instagram, j'essaie vraiment de jouer sur le côté ludique parce que ça s'y prête bien sur le format Instagram et que je sais qu'au-delà de 15 secondes, l'attention des visionneurs sur Instagram décroche. Tandis que sur YouTube, je suis peut-être un peu plus pro, plus carré. La chaîne s'appelle aussi Major Mouvement comme mon profil Instagram.
Je mettrai tous les liens de toute façon en description de l'épisode.
Très très bien. Et donc par rapport à ça, ouais, c'est vrai que finalement moi je préfère presque mon contenu YouTube à mon contenu Instagram.
Ouais, parce que de toute façon, quand on fait des petits contenus de 1 minute, on est toujours j'ai raté ça, j'aurais pu mettre ça en plus, bon tant pis. Et puis en plus on a plus d'opportunités de se faire reprendre parce qu'il y a des personnes qui nous disent oui mais t'as oublié de parler de ça et de ça, mais en 1 minute en fait tu t'es obligé d'aller à l'essentiel quelque part, quoi.
Et même ça, c'est très intéressant ce que tu dis au tout début. Forcément, dans ce que je fais, parfois je fais des petites erreurs. Ça m'arrive notamment, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que le faisceau postérieur du scalène était rotateur contralatéral. Il y a un collègue qui m'a repris là-dessus. J'ai envie de dire, par rapport, sur Instagram, je poste une vidéo par jour. C'est vrai que je l'ai fait avec toutes mes connaissances à moi. Parfois, ça m'arrive de faire une petite erreur et j'en suis désolé. Et j'invite les gens qui détectent des petites erreurs à me corriger. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse principalement, c'est ce qu'on va parler probablement pendant ce live, pendant ce podcast, c'est vraiment retrouver du mouvement de manière très très globale et moins s'attarder sur des petits détails qui parfois en fait nous font principalement perdre du temps.
D'accord. Écoute, la première question, comme ça nous permet de commencer directement. Moi, j'ai noté quels sont les bénéfices à court et long terme de travailler sur sa mobilité et sa souplesse lorsque l'on est sportif.
Exactement.
Parce que j'ai quand même, enfin, je précise que les personnes qui nous écoutent actuellement, ce
Ouais.
sont enfin, fréquemment des sportifs et pratiquants de musculation.
Donc là, ce que je te propose, c'est que je vais te faire une première réponse un peu rapide et ensuite rentrer un peu plus dans les détails, si ça te va. Donc, la première intérêt de la mobilité, c'est avant tout pour essayer, enfin, pour éviter de se blesser. Sachant que plus vous aurez une bonne mobilité, notamment au niveau du dos et au niveau des épaules, parce que pour les pratiquants de musculation, ce sont les deux articulations qui posent le plus de problèmes, plus vous allez pouvoir limiter les compensations, les surcompensations, toujours au même niveau, au niveau des mêmes régions anatomiques, et du coup essayer de répartir les pressions. Donc, le fait de travailler votre mobilité vous permet d'être le plus efficace possible sur toutes vos articulations, sur tous vos os, sur tous vos muscles, sur tous vos tendons, sur tous vos ligaments, pour faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent. Donc, principalement pour éviter les blessures, la mobilité, c'est absolument essentiel. L'autre intérêt qui est important, c'est que, donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, si tu
Vas-y,
veux
vas-y.
répéter, c'est que les études scientifiques montrent que le travail de mobilité permet de renforcer la proprioception. Je pense que si vous êtes sportif, c'est un mot qui vous parle, je vais le redéfinir pour ceux qui ne le sont pas. La proprioception, c'est la capacité de vos muscles, de vos ligaments, de votre peau, de vos yeux et de votre oreille interne à vous donner une information par rapport à la position de votre propre corps. Donc là, je suis en audio, mais grosso merdo, c'est ce qui va vous permettre de savoir, sans avoir besoin de regarder votre levier de vitesse, si vous avez votre main sur votre levier de vitesse ou la main sur l'appuie-tête. Vous n'avez pas besoin de regarder, c'est juste que votre peau, vos muscles, vos ligaments vous ont donné l'information que votre main, elle était posée à cet endroit-là, que le coude, il était fléchi à 90 degrés, que l'épaule était penchée en avant et pas en rotation complète externe, comme si vous aviez la main sur l'appuie-tête. Au niveau fin de la proprioception, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, là j'ai fait une vidéo récemment sur le mouvement du pull-over, à savoir, je pense, est-ce que tu veux le redéfinir, le mouvement du
Non, je
pull-over?
pense que tout le monde le connaît, hein, en
Tout le monde
muscu.
le connaît. Voilà, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. De savoir quel est l'intérêt de l'engagement plutôt en rotation interne de la gléno-humérale ou plutôt en rotation externe de la gléno-humérale avec une capacité d'abaissement de la scapula. Tout le travail de mobilité au niveau des articulations, c'est au moment où vous êtes en train de réaliser votre geste technique, de savoir, OK, dans quelle articulation je suis, quel muscle je suis en train de travailler. Et ça va vous permettre lors de vos séances de renforcement d'être le plus analytique, c'est aussi analytique, je pense que c'est un mot que vous connaissez tous, c'est vraiment le fait d'être visé sur le muscle que vous visez et d'éviter les compensations. Plus vous travaillez votre mobilité, plus vous avez meilleur vous aurez une proprioception, meilleur vous serez capable de vous autocorriger. Je pense que la plupart d'entre vous, vous voyez les miroirs dans toutes les salles de sport. Personnellement, je suis absolument pour le miroir. Après, pour les questions d'ego, pour les questions de m'as-tu vu, c'est un autre débat, je vais même pas rentrer dedans. Mais par rapport, en fait, le miroir, nous, on utilise un mot très technique, mais qui est finalement le reflet, qu'on appelle le biofeedback, à savoir quel est le retour visuel de la tâche motrice que je suis en train d'engager. Donc, quand vous êtes devant votre miroir, on va prendre un mouvement encore plus simple, on va prendre le biceps curl, de sentir, encore une fois, Théo, tu n'hésites pas à me corriger sur les noms, par rapport à la muscu, ce genre de choses-là. Moi-même, je le pratique un tout petit peu à titre très personnel et je le pratique plutôt sur des gestes anatomiques dont je connais pas les noms.
Non, bah après c'est du curl biceps à la barre, classique
Exactement.
quoi.
C'est peut-être le petit problème qu'on aura lors du live, donc je te fais confiance par rapport à
Ouais,
ça
pas de souci.
pour me corriger si jamais je me trompe. Mais sur le curl du biceps, de sentir que vous êtes vraiment sur le biceps, sur la portion de fléchisseur au niveau du coude ou s'il y a une compensation au niveau de sa portion de flexion au niveau de la gléno-humérale, est-ce qu'il y a un engagement au niveau des genoux, du bassin pour donner un petit peu de mouvement d'accélération et utiliser la balistique pour venir chercher le curl? Est-ce qu'il y a une compensation peut-être au niveau du grand pectoral ou au niveau des dorsaux? Tout ça, en fait, c'est quand vous êtes devant votre miroir, avoir un feedback, donc avoir un retour visuel sur la tâche motrice que vous êtes en train d'engager. Et j'encourage un maximum d'entre vous à travailler devant le miroir pour vous dire, OK, qu'est-ce que je suis en train de travailler? Quels sont mes systèmes de compensation possibles? Où est-ce que je le ressens? Pourquoi? Parce que la proprioception, tu me dis, hein, Théo, si jamais je suis trop long,
Non,
évidemment.
non, non, mais c'est parfait.
Par rapport à la proprioception, il y a cette phase de prise de conscience qui est absolument nécessaire. On va revenir à quelque chose de très très simple pour que vous puissiez tous comprendre. Je vous souhaite à tous de savoir écrire, mais comment est-ce qu'on a appris à écrire? On a passé notre temps à prendre un stylo quand on avait entre 5 et 7 ans et à répéter sur des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Et qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait le A et puis on comparait si le A précédent était le même que le A suivant. Et on corrigeait en fonction de ça. Et on corrigeait en fonction de ça. À ce moment-là, on était en train de développer le travail, en fait, neuromusculaire, le schéma entre notre cerveau et nos muscles pour être capable de réaliser une tâche motrice. C'était le fait qu'on puisse se comparer, qu'on avait notre institutrice qui passait derrière nous pour dire, bah voilà, là, ton A est bien fait, ou il doit être plus comme ci, plus comme ça. Demain, quand vous êtes en salle de muscu, bah, vous êtes un peu livré à vous-même. Donc, la capacité d'être devant le miroir pour pouvoir se regarder, pour pouvoir être capable de dire, OK, mon curl, je dois le faire plus en rotation externe, plus en rotation interne. Là, je sens que si je viens plus en pronation, j'engage plus mon brachio radial, tandis que si je suis bien en supination, je suis plus sur mon biceps. Et là, ça va être vraiment intéressant par rapport à votre volonté d'être bien analytique sur le mouvement que vous voulez travailler, sur le muscle que vous voulez travailler.
Excuse-moi, mais juste tu penses que quel est ton point de vue par rapport à la mobilité, la souplesse là-dessus? C'est-à-dire qu'on peut amplifier toutes ces sensations et toutes ces détections grâce à la mobilité et la souplesse?
Exactement. Donc en fait, quand on va gagner de la mobilité, le fait qu'on le travaille en contrôle de l'articulation, on va venir visiter toutes les amplitudes. Donc déjà, ne serait-ce que par rapport un peu au mot que j'utilise vulgairement de rouage articulaire. On va reprendre le biceps. Très très simple, c'est une articulation qui est très simple. On n'a que 2 degrés de mobilité, pas le biceps, le coude. On n'a que 2 degrés de mobilité, à savoir sur la flexion-extension et sur la pronosupination. Ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Lorsque, imaginez que vous soyez pété le bras, fracture de l'humérus, fracture du coude, et vous êtes immobilisé dans un plâtre. Quelle est la première chose que vous allez faire quand vous allez enlever le plâtre? Regagner de la mobilité. Donc, c'est-à-dire, vous allez venir travailler la flexion, l'extension, la pronosupination pour être capable de récupérer une flexion du coude complète, une extension du coude complète. Imaginez demain que vous allez aller à la salle de muscu sans avoir regagné la mobilité. Vous allez avoir donc une restriction de mobilité au niveau du coude. Votre flexion ne va pas être complète, votre extension ne va pas être complète, votre pronosupination ne va pas être complète. Si vous mettez en charge une articulation qui n'a pas tous ses degrés de mobilité, vous allez venir mettre en contrainte des composantes articulaires, la capsule, le ligament, les fascias, les tendons, les muscles, parce que déjà, ne serait-ce que pour réaliser le mouvement de flexion-extension à vide, ils vont être obligés de lutter contre eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez rouler avec votre voiture avec le frein à main. Et donc, bien souvent, si on peut directement embrayer là-dessus. Ces nombreuses tendinites en fait se déclarent pas parce que vous mettez en charge, mais parce qu'au sein de votre propre corps vous avez des restrictions articulaires, musculaires, parfois de fatigue un peu globale, qui fait que vous êtes en train d'utiliser votre voiture avec le frein à main. Le moteur chauffe, c'est votre tendon qui commence à couiner, et puis vous, qu'est-ce que vous allez dire? Tiens, j'ai mon moteur qui chauffe, il faut que j'arrête mon moteur. Certes, mais le jour où vous allez redémarrer votre moteur et que vous n'avez pas enlevé votre frein à main, votre moteur va chauffer exactement de la même manière. La tendinite, je schématise, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a augmenté les contraintes sans avoir la capacité de mobilité. Et du coup, ça a augmenté les contraintes au niveau du tendon et le tendon flambe un petit peu.
Et du coup, finalement, là, tu parlais d'une blessure, donc une blessure accident, par exemple, une fracture ou autre, mais ouais. Une personne qui pratique, on va dire, de la musculation à but hypertrophique, ouais. Sans s'intéresser du tout ni à la mobilité ni à sa souplesse, pendant, on va dire, 5 à 10 ans, ouais. va finalement réduire son champ d'amplitude articulaire.
C'est ça.
Donc, va se payer des blessures d'usure, finalement.
C'est ça. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, j'entends beaucoup, heureusement pour eux, des contre-exemples. C'est-à-dire des mecs qui se sont jamais étirés, des mecs qui ont des circuits training qui sont un peu anarchiques, qui leur convient à eux et qui ne se blessent jamais. Moi, je les appelle des Highlanders et je leur dis... bravo les gars, enfin ça convient pour vous de pas avoir une bonne hygiène musculaire, articulaire, alimentaire, d'entraînement. Mais pour la plupart d'entre nous, si on n'a pas une bonne routine de mobilité, on s'expose, comme tu le dis, à des contraintes et à des systèmes d'usure qui vont se mettre en place petit à petit. Je vais prendre un exemple très concret. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai des patients qui sont assez sportifs, qui ont entre 30 et 60 ans. Là, en ce moment, il y a une grosse mode au niveau du CrossFit. Et j'ai pas mal de types, voilà, qui travaillent toute la journée, qui sont assis toute la journée et qui vont s'envoyer au CrossFit comme des maboules. Le CrossFit, moi, comme toute activité sportive, je valide, même si, comme toute activité sportive, elle peut occasionner des dégâts, mais on n'est pas là pour parler de ça. On pourra peut-être faire une parenthèse si ça t'intéresse. Mais la plupart des box met à votre disposition des séances de mobilité. Et je suis assez surpris d'avoir des mecs en face de moi qui me disent, bah voilà, je comprends pas, je fais du sport et je commence à avoir des douleurs au niveau de mes tendons, je commence à avoir des douleurs au niveau du dos. Et pourtant, je fais du sport 3 fois par semaine. Et je leur demande, d'accord, ok. Bon, est-ce que t'es passé de 0 séance par semaine à 3 fois par semaine du jour au lendemain, ou est-ce que t'es passé pendant 6 semaines de 0 à 1, puis pendant 6 semaines de 1 à 2, et pendant 6 semaines de 2 à 3? Ils disent, non, non, j'ai tout commencé du début à la fin. Enfin, de 0 à 3. Donc déjà, là, on passe de pas d'activité sportive, pas de contrainte au niveau des tendons, pas de contrainte au niveau des muscles, à grosse activité lourde. Bon, déjà, par rapport à ça, l'entraînement n'est pas tout à fait adapté, finalement, de quelqu'un qui passe de 0 à grosse intensité d'entraînement.
Ah oui.
En plus de ça, c'est des gens qui ne vont pas faire les watts de mobilité. Et là, je leur dis, mais c'est pas possible, tu peux pas demander à ton muscle de mettre énormément de contraintes sur ton travail musculaire sans à côté, lui apporter un peu de bien-être, un peu de relâchement tissulaire.
D'accord.
Je rentre parfois un peu dans les détails.
Non, mais c'est bien, en fait. C'est bien. Et puis même, il y a ce côté où tu as bien pris l'exemple du, on va dire, celui qui travaille en mode sédentaire et puis qui, c'est du ça. Jour au lendemain, puis en plus choisit le sport qui est peut-être le, alors je veux pas te dire le plus dangereux, parce que c'est pas plus dangereux qu'un autre, j'imagine, mais qui est en tout cas très violent.
C'est ça. Donc par rapport à ça, c'est vrai que, bon, moi, j'ai toujours mon œil de thérapeute, hein, c'est-à-dire que le sport aujourd'hui le plus dangereux, c'est le ski, hein, c'est-à-dire qu'en termes de nombre de personnes qui pratiquent et de nombre de blessures, c'est le ski. Et ensuite, c'est le football. Donc, le crossfit est loin, loin, loin derrière. Par rapport à ça aussi, je relativise un petit peu, je me dis, ok, demain, au crossfit, qu'est-ce que les gens vont se faire? Principalement des tendinites, c'est chiant. Bon, so what? Par rapport à quelqu'un qui se fait un trauma crânien ou une fracture lombaire avec déplacement qui finit malheureusement handicapé, comme on peut le retrouver au ski ou même parfois dans d'autres sports comme le rugby, je relativise. Donc, on diabolise un peu le crossfit. Moi, je garde du recul par rapport à ça, toujours à me dire, le truc le plus grave pour le corps humain, c'est l'inactivité.
Ouais.
Donc finalement, je préfère un mec qui se fait une tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs ou une tendinite au niveau du tendon du tendon rotulien plutôt qu'un type qui est en surpoids et qui risque de faire un AVC à 50 ans parce qu'il a jamais fait de sport de sa vie. Donc je schématise un petit peu, mais c'est pour contrecarrer pour moi les gens qui disent, quoi, mais t'es kinésithérapeute, tu cautionnes le crossfit. Moi, je prends l'argument complètement inverse, à savoir, les gens qui font du crossfit, ils sont souvent assez passionnés, ils ont retrouvé un lien social, ils ont retrouvé une activité qui leur plaît, qui s'adapte à leurs horaires de travail. S'ils se blessent un peu au niveau des articulations, pour moi, le jeu en vaut la chandelle quelque part.
Après, le taux de blessure dans le crossfit, il y a un débat là-dessus. Mais après, ce qu'il faudrait, je pense, étudier aussi, pour faire la comparaison, c'est peut-être que le crossfit est aussi plus motivant pour les débutants, ce qui permet aux débutants de s'entraîner plus souvent. C'est ça. Donc, du coup, tu fausses un petit peu les données taux de blessure, etc. Parce que si le gars, il fait de la muscu classique, mais qu'il n'est pas motivé parce qu'il est tout seul et il y va que 3 fois par mois, et au crossfit, il est motivé, il y va 3 fois par semaine, c'est pas du tout le même échantillon de personnes, quoi.
T'as tout compris. Et là, t'as dit un mot surtout qui est essentiel. C'est-à-dire le mot débutant. C'est ce que j'ai expliqué. On peut pas passer de 0 à 3 entraînements par semaine.
C'est,
mais mécaniquement, pour le corps humain, ce n'est pas possible. Surtout si on n'a pas un vrai passif de sportif. Ou même parfois, on peut avoir un vrai passif de sportif. Tu le sais, bon, c'est, là, pour le coup, scientifiquement parlant, c'est peut-être moins prouvé, mais notre corps a une mémoire musculaire. Et j'ai vu pas mal de gens qui avaient été sportifs de très très haut niveau, qui ont coupé pendant 4-5 ans et qui se sont remis dans du sport amateur, et c'est à ce moment-là qu'ils se blessent. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent remettre la même intensité que quand ils étaient sportifs de haut niveau, au niveau amateur, alors qu'ils ont fait une coupure pendant 5 ans, au niveau musculaire, ils sont plus aussi préparés, ils mettent la même intensité, et souvent comme ça qu'ils se blessent, parce que leurs muscles, leurs tendons n'ont plus les mêmes capacités que ce qu'ils avaient avant.
Oui. Mais ça me permet de rebondir sur une autre question, alors. Dans notre domaine, quelles sont les pathologies les plus récurrentes ? Alors, quand je dis notre domaine, c'est les pratiquants de musculation que toi, tu as pu traiter pendant ta vie professionnelle, quoi.
Alors, les deux trucs les plus fréquents, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure, à savoir la tendinite d'épaule et les problèmes au niveau du dos. Je vais attaquer par le dos parce que quelque part c'est celui où je me sens le plus à l'aise, mais aussi c'est presque celui qui touche le plus de monde et c'est aussi celui qui est le plus entre guillemets simple à traiter. On va faire une petite parenthèse si tu veux bien sur la hernie discale. parce que je pense que ça concerne pas mal de monde. Grosso merdo, la hernie discale, qu'est-ce que c'est? Ça va être une saillie du disque intervertébral. Donc, le disque intervertébral, c'est une structure qui a pour but d'amortir les mouvements entre chaque étage vertébral, entre chaque os, et qui, parfois, notamment au niveau L4, L5, donc vertèbre numéro 4, vertèbre lombaire numéro 4, numéro 5, et L5, S1, donc le tout dernier étage lombaire 5 et la première étage sacré 1, on va avoir une petite saillie du disque derrière. Ce disque, quand il sort, il va venir comprimer une partie de la moelle épinière ou de l'émergence des racines nerveuses. Donc la moelle épinière, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est tout le monde le sait, mais je le redis. C'est un ensemble de nerfs à la fois moteurs, donc ce qui nous permet de bouger, et sensitifs, ce qui nous permet de ressentir. C'est ce qui fait que si vous voulez bouger le doigt de pied, votre message va partir du cerveau, va passer dans tout votre rachis, donc les os du dos, pour finir dans votre doigt de pied et venir bouger votre doigt de pied. À l'inverse, si vous marchez sur une épine, le message douloureux qui est au niveau de l'épine que vous avez au niveau du gros doigt de pied va remonter le long de votre cuisse, le long de votre nerf, le long du rachis pour arriver à votre cerveau et vous donner l'information douloureuse. Ceci étant dit, donc quand vous avez une hernie discale, principalement elles peuvent être, allez, je vais schématiser encore une fois, de deux types, soit postérolatérales, soit franchement latérales. Postérolatérales, ça veut dire quoi? Elles vont partir en arrière et légèrement sur le côté pour écraser au niveau L5 S1 le nerf sciatique, au niveau L4 L5 le nerf crural. Peut donner des sensations d'irradiation pour le nerf sciatique arrière de fesse, arrière de cuisse, face postérieure de mollet et face postérolatérale de pied. Pour le nerf crural, face postérieure, allez, haut de la fesse, face antérieure de cuisse, face interne de genou et face, que je dise pas de conneries, face antérieure et latérale de tibia. Bref, ce sont les deux gros trajets nerveux qu'on peut retrouver sur une hernie discale. Mmh. Ça va, c'est à peu près clair ou pas?
Ouais. C'est parfait.
Donc, la hernie discale, imaginez vraiment, en fait, une petite saillie postérieure du disque qui va venir irriter une racine nerveuse. Ça, c'est un postulat. Je vais essayer de le prendre dans le bon sens parce que c'est vrai que là-dessus, on a beaucoup d'idées reçues, notamment au niveau des thérapeutes, et donc peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi, donc je vais essayer de le prendre dans le bon sens et vraiment par rapport à ce que nous dit la science aujourd'hui. Mmh. La hernie discale est un des processus normal de vieillissement du corps humain. Donc quand il y a des gens qui viennent me voir à 40, 50 ou 60 ans en me disant j'ai mal au dos parce que j'ai une hernie discale, je leur dis c'est faux. Ce sont deux choses qui sont liées, mais pas c'est pas parce que vous avez une hernie discale que vous avez mal au dos. Et c'est pas parce que vous avez une hernie discale que vous allez avoir mal au dos. On se rend compte aujourd'hui que si on passe des IRM ou des scanners au niveau des gens qui n'ont pas mal au dos, on a la même proportion de hernie discale chez les gens qui ont mal au dos et chez les gens qui n'ont pas mal au dos. Je la refais parce que ça, je vous assure que c'est absolument passionnant. Si on passe un IRM à 120 mecs qui ont entre 40 et 50 ans, qui ont mal au dos ou qui n'ont pas mal au dos, on retrouve la même proportion de hernie discale chez ceux qui ont mal au dos et ceux qui n'ont pas mal au dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des hernies discales qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire que des gens ont une hernie discale et pourtant ils n'ont pas mal au dos, ils n'ont pas la douleur de trajet sciatique, ils n'ont pas la douleur de trajet crural. Et d'autres personnes qui ont mal au dos et qui ont une hernie discale. Et ça va même encore plus loin, Théo. C'est qu'on peut avoir des gens qui ont le trajet sciatique, qui ont le trajet crural, et quand on fait un IRM, on ne trouve pas de hernie discale. Et donc, par rapport à ça, on a cette idée reçue énorme qui est de dire « Oh mon Dieu, j'ai une hernie discale, ça en est fini pour moi, je vais devoir laisser tomber toutes mes activités sportives parce que je suis foutu et que je veux préserver mon dos pour les 40 et 50 années à venir. » La hernie discale, je leur ai dit, c'est un processus de vieillissement normal. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on a une hernie discale. Et donc là, on revient à ta toute première question par rapport aux mobilités. En effet, si on va prendre un exercice, je pense que tout le monde connaît, le soulevé de terre, on est d'accord que si vous faites un soulevé de terre avec une mauvaise position du dos, vous allez augmenter les contraintes sur votre rachis lombaire, augmenter les contraintes sur votre disque et augmenter le risque de survenue d'une hernie discale. Donc, c'est hyper important lorsque vous commencez à faire un soulevé de terre, de faire un soulevé de terre d'abord à charge à vide, et lorsque vous commencez à le charger, d'être en permanence devant votre miroir ou avec un copain qui est capable de vous corriger pour s'assurer que votre dos soit dans une bonne position, à savoir légère extension, position neutre, et éviter principalement la flexion.
Après, il y a quelque chose par rapport à... Je rebondis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport au... Ouais, on va dire, on a aux hernies dormantes, quoi. En gros, on n'aurait pas connaissance. Est-ce que tu penses qu'il y a une phase finalement aiguë de la hernie discale et une phase dormante? C'est-à-dire que moi, autour de moi, je connais plusieurs personnes qui ont eu, enfin, et qui ont une hernie discale et qui sont passées par une phase aiguë. Vraiment au niveau de la douleur et qui aujourd'hui ont pu récupérer, on va dire, l'entraînement, etc., sans douleur.
Exactement. Donc tu fais bien de me le rappeler parce que c'est vrai que bon, j'ai énoncé pas mal de choses et là tu viens de dire probablement quelque chose qui est le plus essentiel, à savoir faire le distinguo entre la phase aiguë et la phase que tu dis dormante, nous on appelle finalement plutôt chronique. La phase aiguë, c'est vraiment une phase où là il est important d'aller consulter. Pourquoi? Parce que sur la hernie discale, même si je l'ai un peu banalisé sur le coup d'avant, on sait qu'il y a des hernies discales qui sont graves et qui nécessitent une opération chirurgicale d'urgence. Ces cas-là, c'est quoi? C'est au moment, je vous ai parlé tout à l'heure du trajet moteur et du trajet sensitif des nerfs, c'est quand on a un déficit moteur. C'est-à-dire que vous avez l'incapacité de bouger votre gros doigt de pied. Vous essayez de bouger votre gros doigt de pied et le gros doigt de pied ne bouge pas. Là, c'est une urgence médicale, chirurgicale majeure. Vous devez aller consulter très rapidement un médecin ou aller aux urgences en disant, ben voilà, vous pouvez même pas forcément avoir mal au dos, mais depuis tant de temps, et là, faut agir assez vite, je ne peux plus bouger mon gros doigt de pied. Ou j'ai un vrai trajet d'irradiation sensitif où là, je sens tout le trajet. Là, on est plutôt sur une irradiation sensitive, mais là aussi, ça constitue une phase aiguë de la hernie discale. Et là, il est important d'aller consulter. Et là, c'est votre médecin qui va vous aiguiller. Donc, tu as bien fait de me le répéter parce que c'est vrai que je me suis un peu emballé tout à l'heure quand j'ai voulu banaliser la hernie discale justement pour dire les gens, n'ayez pas peur. Mais il y a quand même deux cas où là, c'est médecin d'abord. Le cas aigu.
D'accord.
L'autre cas aigu qu'on peut retrouver, c'est finalement on n'a pas ni ce déficit moteur ni ce trajet sensitif, mais vraiment quelqu'un qui se lève le matin après une grosse séance de sport ou après avoir fait un déménagement et là qui peut plus bouger du tout, qui a une douleur au niveau, on parle d'échelle visuelle analytique de la douleur, le VA, je crois que c'est ça, bref, le VA, où la personne décrit une douleur de 9 sur 10, elle peut plus bouger, elle est tétanisée, elle peut avoir des sueurs froides et là c'est horrible, elle se demande ce qui se passe. En gros, voilà, elle se réveille avec un énorme spasme musculaire qui est des crampes partout dans le dos et la personne ne peut plus bouger. Là, c'est une phase aiguë de la lombalgie, de la douleur lombaire qui peut être ou non liée avec une hernie discale. Là aussi, il faut aller consulter. On a des traitements médicamenteux, des traitements kinésithérapeutiques. Parfois, l'ostéopathie peut tout à fait aider, parfois d'autres techniques aussi, pour pouvoir sortir de cette phase aiguë. Donc, si on doit garder un message clair par rapport à tes auditeurs, phase aiguë, c'est un traitement médical qu'il vous faut. L'autre phase, la phase dormante, la phase chronique, c'est finalement vous avez eu des antécédents de phase aiguë, vous en êtes sorti avec l'aide de la médecine habituelle, et puis finalement vous êtes au moment où vous voulez reprendre votre activité. Donc c'est là où la kinésithérapie, pour moi, prend tout son sens, c'est d'être capable de dire à un type qui veut reprendre du sport avec un antécédent, de dire ok, avec ton kiné, hein, on va reprendre étape par étape par étape, pour éviter que tu ne te reblesses. À savoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi tu t'es créé une hernie discale? Et ben finalement, on va se rendre compte que sur son mouvement de soulever de terre, la position du dos n'était pas bonne. Pourquoi la position du dos n'était pas bonne? Parce qu'il n'avait pas une bonne proprioception au niveau de ses muscles du dos. Et du coup, il n'était même pas capable de s'auto-corriger. Et du coup, à chaque fois qu'il faisait ses soulevés de terre, petit à petit, il avait une mauvaise position accumulée. Donc, c'est quelqu'un chez qui on va redissocier vertèbre par vertèbre, et je vous assure que c'est comme ça que ça se passe, étage par étage au niveau du bassin, au niveau des vertèbres du lombaire, au niveau des vertèbres dorsales, pour redonner une bonne prise d'information, une bonne mobilité pour que le type, le jour où il va retourner à l'entraînement, ce qu'on essaie de faire une fois qu'on est sorti de la phase aiguë, qui peut prendre parfois une semaine, qui peut prendre parfois 6 semaines, qui peut prendre parfois 3 à 6 mois, une fois qu'on est sorti de la phase aiguë, pour reprendre l'entraînement au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, reprendre progressivement, et là, c'est du travail au cas par cas, c'est pour ça que c'est difficile de le faire sur YouTube, au savoir vraiment, ok, comment le mec qui est en face de moi, ou comment la nana qui est en face de moi bouge, et comment je peux lui apporter une correction pour éviter qu'il ne se reblesse.
Non, mais déjà, ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'il y a différentes phases, et qu'il y a des solutions pour revenir.
Exactement.
Donc ça, c'est le message, je pense, le plus important.
Exactement.
Surtout ceux qui nous écoutent, il y en aura certainement, parce qu'il va y avoir le mot-clé hernie discale. Donc du coup, il y a des gens qui, aujourd'hui, en nous écoutant, sont dans la phase aiguë et sont complètement en panique.
Voilà.
Donc je pense que c'est important d'avoir un discours qui se veut, on va voir, enfin, à la fois sensé, mais aussi encourageant pour l'avenir.
Exactement, c'est exactement sensé et encourageant. C'est-à-dire, en fait, voilà, vraiment être capable de faire le tri. Et là, c'est votre médecin qui va vous aider à faire le tri. Et puis, savoir dans quelle case vous vous trouvez. Et comme je vous ai pris l'exemple de celui qui se bloque le dos le matin, honnêtement, c'est très, très douloureux. Mais moi, quand j'ai un type comme ça qui arrive, je suis pas plus alarmé que ça, hein. C'est-à-dire, bon, bah, on a eu un épisode hyperalgique. Je vous invite, d'ailleurs, je pense que tu peux la mettre en lien. C'est un exemple que j'aime bien mettre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nadal avait eu pendant une interview une crampe au niveau du mollet. Et on connaît la capacité d'encaissement physique au niveau des douleurs des sportifs de très haut niveau. Et on voit Nadal littéralement, mais ultra-algique, ultra-douloureux, qui finit couché sur la table en pleine interview devant 25 caméras et qui finit couché sous la table tellement il est pris d'une crampe. Alors, c'est une simple crampe au mollet, mais on peut voir au niveau de sa tête le côté très, 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 voilà, je l'ai mal dit, très, 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 très douloureux que certains muscles peuvent avoir quand ils se spasment. Et finalement, de dire, bah voilà, la douleur, nous, en tant que thérapeute, c'est pas ce qui nous intéresse. C'est certes ce qui anime principalement la consultation d'un patient quand il vient voir un médecin ou un kiné, mais finalement, nous, c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est comme je vous l'ai dit, le déficit moteur, là, c'est important, les troubles sensitifs, mais la douleur, finalement, on sait que lui, il a un très bon pronostic. Là aussi, tu peux rassurer les gens. Si c'est uniquement douloureux, le pronostic est bon.
D'accord. Très intéressant, ça. C'est-à-dire que, en même temps, quand on est la victime, entre guillemets, de la douleur, on a tendance à focaliser dessus, quoi. Exact. Alors qu'on a du mal à identifier, qu'on arrive parfaitement à marcher, à se lever, à bouger tous nos doigts, etc. Donc, faut réussir. C'est pour ça qu'il y a des professionnels qui sont là aussi pour.
Et donc là, je ne sais pas si vous l'avez vu, la Sécurité sociale, conjointement avec l'Ordre des kinésithérapeutes et des médecins, a mis en place une campagne pour le grand public qui est…
Pour le dos, non ?
Pour le dos, exactement. Ouais. Le bon traitement, c'est le mouvement, il me semble que c'était ça.
C'est ça, ouais, c'est sur les abribus.
Exactement, sur les abribus. Donc en fait, ça résume tout à fait ce que je disais, à savoir, bon, on sort de la phase algique, allez, on reprend l'exemple de ce fameux mec qui a fait un déménagement pour aider ses copains, qui est sportif ou pas, qui a soulevé un canapé de la mauvaise position, qui se réveille le lundi matin, le dos complètement bloqué. Et puis, on s'aperçoit que finalement, ce type-là, on a des meilleurs résultats, on a un meilleur pronostic si on le remet relativement vite, c'est-à-dire relativement sous 2-3 jours, en activité. C'est-à-dire qu'on fait un arrêt de travail en fonction, encore une fois, on passe par la case médecin parce que c'est le médecin qui va être capable de faire le triage, en savoir, OK, on est uniquement sur quelque chose de très douloureux ou on est sur d'autres complications possibles. Donc, encore une fois, allez voir un médecin. Mais une fois qu'on est sorti du médecin, de dire OK, ça marche. Maintenant, je sais que si je suis uniquement sur une phase très douloureuse, mon pronostic est bon et que je vais pouvoir rebouger. C'est justement le fait de rebouger qui va faire passer la douleur. J'avais un autre truc à dire par rapport à ça. Donc c'est vrai que cette campagne par rapport au grand public, moi je l'ai trouvé très très bien. Alors forcément, on peut toujours critiquer tout ce que vous voulez, mais je l'ai trouvé très très bien parce qu'au moins par rapport à ce que je disais en début de podcast, quand j'ai des patients qui viennent me voir, ils me disent ah mais c'est vrai ce que vous me dites quand vous me refaites bouger, c'est aussi ce que j'ai vu. Et quelque part le pouvoir de l'image est vraiment hyper important, c'est-à-dire que ça fait écho à ce qu'ils ont vu. Quand ils viennent me voir en disant ah, mais finalement vous me refaites bouger, ça correspond bien à ce que j'ai vu de la part de la sécurité sociale, ça correspond bien par rapport à ce que mon médecin m'a dit. Et donc finalement, tu disais quelque chose qui est très important quand on tu me dis si je monopolise très très
non, non mais c'est de toute façon c'est fait pour.
D'accord. Par rapport à la perception de la douleur, on va rentrer dans quelque chose qui est absolument passionnant, qui est peut-être un peu plus difficile à expliquer sur Instagram et que je vais essayer de développer aujourd'hui. Par rapport à la représentation de la douleur, il y a, par rapport à la douleur, de comprendre que la douleur, c'est à la fois objectif, on a une lésion, quelle qu'elle soit, mais c'est principalement subjectif par rapport à nos histoires à chacun, par rapport à nos vécus, à notre vécu, pardon, et par rapport à notre croyance. Je vais vous donner un exemple assez concret. J'ai une jeune femme de 23 ans qui vient me voir et qui me dit « Ah, moi, j'ai mal au dos et je voudrais surtout pas être comme ma mère parce qu'elle a eu mal au dos toute sa vie. » Cette personne-là, elle a grandi depuis ses 12 ans à voir sa mère à se plaindre au niveau de son dos. On le sait très bien que, qu'on le veuille ou non, on a deux possibilités. Soit on est complètement à l'opposé de nos parents, soit on est exactement le reflet de nos parents. Donc, chez elle, qui se voyait comme le reflet de sa propre mère, elle avait déjà cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en train de se dire « Je vais avoir mal au dos. » Et donc, dès qu'elle avait mal au dos, elle se disait, ça y est, je vais finir comme ma mère à avoir mal au dos. Et je lui ai posé la question très simple. Je lui ai dit, d'accord, mais est-ce que tu as mal à d'autres articulations? Elle me dit, j'en sais rien. Je lui ai dit, si, prends le temps de réfléchir. Est-ce que tu as déjà eu mal au genou? Il me dit, bah oui, j'ai déjà eu mal au genou. Est-ce que ça te fait peur quand t'as mal au genou? Je dis, bah non, pas particulièrement. Je dis, pourquoi est-ce que t'as peur quand t'as mal au dos et pourquoi t'as pas peur quand t'as mal au genou? Et là, il me dit, bah parce que ma mère a toujours eu mal au dos. Donc finalement, si on prend l'exemple de cette personne qui correspond à ce que je disais, le domaine de la croyance, quand vous allez, ça c'est la partie un peu plus technique, quand vous allez être vigilant à un message nociceptif, quand vous êtes vigilant à une douleur, vous allez, votre cerveau va augmenter l'importance qu'il attribue à ce message-là. C'est-à-dire que la douleur, c'est un message d'alarme. Et votre cerveau, quand il entend un message d'alarme, si consciemment vous décidez d'y prêter attention, il va augmenter l'intensité du message d'alarme. Et on se rend compte de ce côté-là qu'il y a parfois certaines douleurs chroniques qui sont uniquement liées, en fait, à un défaut de transcription du message douloureux. Je la refais, à un défaut de transcription du message douloureux. C'est-à-dire que votre structure est saine, votre tendon est sain, il ne souffre plus, il a cicatrisé, on a passé un IRM, on a passé une écho, on a passé une radio, tout est bon, et pourtant la douleur persiste. Pourquoi? Parce que votre cerveau, pendant des semaines, pendant des mois, parfois pendant des années, à continuer à considérer ce message douloureux et à le prendre avec importance. Pourquoi? Parce que ce message douloureux, il a l'accumulation à la fois d'un message douloureux initial, mais à la fois une accumulation de vos peurs, de vos craintes, de vos croyances, qui fait que votre cerveau l'a considéré, a été de plus en plus attentif à ce signal d'alarme.
Ça me permet de rebondir juste sur quelque chose qui correspond en fait parfaitement. Je regardais une conférence sur la psychologie des émotions récemment. Ouais. Et il y a des études qui démontrent que les pessimistes, en fait, ils ont un champ de vision qui est très réduit. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer essentiellement sur les détails. Exactement. Alors que les optimistes, plus sur une globalité.
C'est ça.
Et au niveau de la douleur, finalement, ça serait peut-être pareil. Comme Exactement. Tu t'expliquais tout à l'heure, elle est pessimiste, elle se focalise que sur le dos, mais elle oublie finalement que globalement, elle va plutôt bien et que parfois, il lui arrive d'avoir mal ailleurs aussi.
Exactement. Donc, ce que tu dis, c'est très très vrai. C'est passionnant. Les neurosciences aujourd'hui nous permettent d'aller de plus en plus loin par rapport à la compréhension de la douleur. Il y a une vidéo, je ne sais pas si tu pourras la mettre, qui est sur YouTube. Alors, c'est des Canadiens qui l'ont faite. Ils l'ont traduite en français partout dans le monde. Qui s'appelle, je crois, Chronic Pain en anglais, même en français. La compréhension de la douleur. C'est un petit, dans un style de Draw My Life. Mm-hmm. Il vous explique très très bien en 5 minutes. J'espère que tu pourras la retrouver pour la mettre en lien. En 5 minutes, la différence entre les douleurs algiques, donc vraiment les 2-3 premiers jours, les 3-4 premières semaines, où là, en effet, allez voir un médecin, et puis finalement, une douleur qui finit par traîner. Et là, on comprend surtout la pluralité des sources de la douleur. La pluralité, c'est-à-dire les différentes causes possibles d'une douleur qui persiste. Et je t'invite vraiment à la mettre en lien parce que
si j'oublie ou si je la trouve pas, j'invite les auditeurs en fait à les mettre en commentaire directement si quelqu'un la connaît en commentant sur YouTube là directement de mettre le lien si j'oublie ou si je trouve pas.
Sinon moi je le ferai, mais c'est vrai que cette vidéo est bien faite, elle permet de relativiser pas mal et de comprendre aussi, comme j'essaie de le dire un maximum dans tous mes posts, le rôle de chaque praticien de santé. Parce que cette vidéo, elle va vous parler à la fois du médecin, elle va vous parler du chirurgien, elle va vous parler du kiné, elle va vous parler de votre diététicien, du psychologue aussi, on en a parlé, par rapport à toutes ces personnes-là qui peuvent vous aider par rapport à une douleur aiguë ou chronique.
Oui, donc on est bien d'accord que la douleur, c'est pas uniquement le kiné qui peut solutionner le problème.
Non, bien sûr que non. Ça, c'est... Bien sûr que non. Et c'est faux. Hein. Moi, ça m'arrive bien souvent d'avoir un patient qui m'est adressé, mais sur lequel je ne suis pas efficace ou je sais que je ne serai pas efficace, et de le renvoyer vers un spécialiste.
C'est aussi important de préciser que le patient ou le pratiquant est tout autant acteur que le professionnel de santé pour guérir finalement.
Là, je pense que tu pourrais pas mieux résumer cette situation-là. On est de plus en plus en train de revenir là-dessus sur l'engagement du patient par rapport à sa propre thérapie. Je vais te donner un autre exemple. J'étais il y a 3 semaines à une conférence sur la hernie discale. Il y avait un neurochirurgien qui était en train de s'exprimer devant nous et déjà qui disait que sur 100%, c'est forcément con, mais sur les consultations, il y avait seulement entre 5 et 7% des consultations en neurochirurgie pour une hernie cervicale, ou en tout cas pour des douleurs cervicales, qui aboutissaient à une opération.
D'accord.
Donc, ça reste, même des gens qui vont voir un neurochirurgien, lui, il n'en opère que 5 à 7%. Donc, bien souvent, ah oui, ça, j'en parle, bien souvent, les gens ne veulent pas aller voir un chirurgien de peur que le chirurgien les opère. Je vous rassure, les chirurgiens, ils ont du boulot par-dessus la tête. Ouais. Et quand ils opèrent, c'est vraiment parce qu'ils estiment que pour vous, c'est le meilleur, la meilleure solution. Alors, vous avez toujours la possibilité d'avoir plusieurs avis. Si pour X raison, l'avis qui vous a été donné, après, ne multipliez pas les 36 avis parce qu'ils ont beaucoup, 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 beaucoup de travail. Mais si vous allez voir 36 chirurgiens pour arriver à une solution, c'est que probablement le problème vient plutôt de votre propre part. Mais les chirurgiens, ils veulent pas ouvrir tout le monde à tire-larigot.
Ouais. Surtout pour trifouiller le système nerveux.
Oui, ils ont d'autres choses à faire et c'est des mecs qui sont essentiellement quand même très, 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 très professionnels. Donc, bref, pour en venir à cette conférence où lui, il finit par opérer des gens en ambulatoire, c'est-à-dire de dire, ben voilà, c'est vous qui arrivez le matin par vos propres moyens, vous arrivez en voiture, vous descendez en marchant au bloc opératoire, c'est vous qui vous allongez sur la table d'opération et le plus rapidement possible, on essaie de vous faire rentrer chez vous. Rien que ça, ce sont des petits gestes symboliques. Il a mis en place une application qui vous permet en amont, un mois en avance, d'avoir tous les détails de vos opérations. Il a mis en place une ligne téléphonique disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez appeler un kiné, une infirmière, un neurologue, un médecin pour pouvoir répondre à vos questions. Là où c'est intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte que par rapport à ce protocole-là où il rend le patient ultra acteur de sa santé, eh bien en fait, on diminue la médication derrière, on diminue le nombre de consultations, on diminue le temps d'hospitalisation, on diminue les effets secondaires de tout ce que j'ai cité juste avant, et on retrouve aussi une diminution de coûts de santé.
Ouais, donc, et puis au niveau moral, c'est plutôt positif
au niveau moral, c'est ultra positif parce que imagine-toi, c'est pas la même chose quand tu te dis putain demain je dois aller me faire opérer. Je vais aller m'endormir à l'hôpital, on va me réveiller à 5h du matin, on va me faire une douche à la bétadine et puis je vais descendre 3 étages dans un brancard. Ah bon, bah je descends en marchant. Ce matin, je me suis réveillé chez moi, j'ai pas pris de café parce qu'il fallait que je sois à jeun, mais j'ai conduit moi-même et je suis descendu à pied dans un bloc opératoire.
Ça donne une dimension facteur risque zéro quoi finalement. J'y vais, c'est comme si je me faisais détartrer les dents, presque, quoi.
Presque. Comme tu dis, on s'est compris, mais... Dans la tête, c'est pas pareil.
Et donc, pour un anxieux, je pense que ça peut être plutôt bénéfique, quoi.
Exactement. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la chirurgie pour vraiment prendre un exemple qui va loin, mais nous, en tant que kinésithérapeute, c'est vraiment le côté acteur du patient. Il est essentiel, c'est-à-dire que on préconise bien souvent des exercices à faire à la maison, et moi je leur dis, et j'invite les kinésithérapeutes à m'écouter, les patients qui m'écoutent, à dire si votre kiné vous donne des exercices, c'est pour que vous les fassiez, c'est pas juste pour se faire mousser l'ego ou pour vous faire plaisir. C'est-à-dire que 95% du job, c'est le patient qui va le faire derrière. Pourquoi? Parce que 99,9% du temps, il est pas dans sa séance de kiné. En train de vivre sa propre vie. Donc si je vais vous donner un exemple par rapport à ça, j'avais un patient qui vient pour une douleur de syndrome rotulien, donc trop de contraintes au niveau du syndrome rotulien. Je fais 2-3 séances machin avec lui, les étirements, les mobilisations, le renforcement spécifique, et ça continue à traîner. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je continue à faire mon renforcement. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il faisait des box jumps, sauf que c'était pas sur des box, mais il sautait sur une table qui était 1,20 m de haut. Il sautait, il rebondissait, et lors de sa phase de rebond, il refaisait 4-5 micro squats bas pour rebondir. D'accord. Et moi, mon protocole de renforcement, c'était seulement un petit protocole de renforcement en excentrique sur la phase de course externe du quadriceps. Donc si moi je lui fais faire des exercices ultra gentils, mais que derrière le mec il se fait une session de renforcement de ma boule. Ma séance à moi, elle est complètement flinguée, et lui, il continue à creuser, j'allais dire pas sa propre tombe, c'est mal dit, mais à creuser le problème, quoi.
Mmh. D'accord.
Donc, faut être acteur, mais faut être un bon acteur.
Ouais. On a vu bien sur la douleur, sur le on va dire les pathologies, enfin la pathologie surtout au niveau du dos. Ouais. Est-ce que t'as tellement de petites vidéos là comme ça sur ton Instagram ou même sur YouTube, des exercices ou des vidéos d'exercices à conseiller aux pratiquants de musculation? Alors, je précise encore une fois, musculation, je parle fitness, culture physique, hein, pas musculation pour l'aviron ou pour le sprinter ou autre. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller, des liens de vidéos ou des types d'exercices, ou sur quoi se concentrer finalement?
Ouais. Donc pour le dos, on en a déjà pas mal parlé. Je vous invite à regarder ma vidéo sur YouTube sur les idées reçues de l'étirement du dos. J'ai beaucoup parlé du dos. Peut-être que je vais faire, allez, encore 30 secondes sur le dos. Après, je vais passer à l'épaule parce que ça touche aussi pas mal de monde. Sur l'étirement du dos, les gens me disent souvent, ben moi, je comprends pas, j'ai mal au dos alors que je m'étire le dos. Et souvent, ils me proposent uniquement de l'étirement du dos en flexion. Or, on le sait, un muscle doit à la fois être étiré, mais il doit être aussi être renforcé. Et si vous proposez, vous imaginez que le dos ne s'étire qu'en flexion, c'est une erreur, puisque le dos, il est capable de bouger dans 6 directions, en flexion, en extension, rotation gauche, rotation droite, inclinaison gauche, inclinaison droite. Et après, on peut cumuler tous ces paramètres pour être le plus spécifique de tous ces muscles. Donc, j'ai fait une vidéo un peu idée reçue par rapport à ça, de dire que votre dos, pour le préserver, vous devez le mobiliser, l'étirer dans tous les sens. Une autre chose, une vidéo qui était assez intéressante, c'est par rapport à la mobilité du bassin. C'est probablement la vidéo qui a fait le moins de vues et pourtant, c'est probablement, je pense, la vidéo la plus importante. Elle n'est pas glamour du tout. C'est apprendre à être capable de bouger son bassin en rétroversion, en interversion. On sait l'importance de l'interversion, de la rétroversion par rapport au mouvement de squat, de deadlift, de tous les mouvements de musculation de manière générale. Je pense que s'il devait en rester qu'une seule, ce serait celle-là. Pour pouvoir être capable d'éviter de se blesser, il faut être capable d'avoir une rétroversion, une antéversion active et contrôlée dans tous vos mouvements de musculation.
Et moi, par exemple, je te coupe juste, mais j'ai solutionné plus ou moins mes douleurs bas du dos grâce au travail du psoas, moi.
Exactement.
Donc, mais du vrai, avec la bonne posture et tout, parce que les petites vidéos, enfin les petites photos qu'on voit pour avec les, souvent c'est des postures de yoga, tu sais, qu'on nous montre. Ils montrent pas finalement le travail du bassin. Qui, quand on travaille bien le bassin, on se rend compte que finalement on peut pas tendre autant la jambe derrière, quoi.
C'est exactement ça. C'est qu'il faut pas confondre en fait l'extension de hanche avec une antéversion de bassin ou une lordose lombaire. Par rapport à ça, c'est vrai que trois muscles. Qui sont vraiment clés par rapport à une bonne mobilité du bassin, c'est le psoas, le piriforme qu'on appelle aussi le muscle pyramidal. J'ai montré une vidéo justement par rapport au syndrome du pyramidal qui peut en fait donner un tableau type sciatique et en fait on est uniquement sur une irradiation du nerf sciatique, une sciatalgie qu'on appelle, qui marche très très bien, qu'on peut vite faire partir avec un bon levé de tension au niveau du piriforme. Là encore une fois, aller voir un médecin pour savoir s'il s'agit d'une sciatique vraie avec compression discale ou d'une sciatalgie uniquement liée par rapport à un spasme du pyramidal. Bref, c'est un peu technique, mais je pense que les gens comprendront. Et l'autre muscle qui est clé, enfin ça fait quatre, mais les abdos et les ischios, donc en gros qui sont tous les muscles qui viennent s'insérer sur la région du bassin. Pour être capable d'avoir une bonne mobilité articulaire, musculaire, il faut avoir des muscles qui soient mobiles. Je finis la parenthèse sur le dos. Donc, tout ça, tu pourras soit mettre les liens, soit sur mes vidéos YouTube. C'est vraiment les toutes premières que j'ai faites parce que rien qu'en ayant une bonne mobilité du bassin, on solutionne beaucoup de problèmes au niveau des lombaires. Et d'ailleurs, je suis assez surpris par rapport à ça. C'est principalement le but du jeu de mon intention avec Major Mouvement, c'est de montrer qu'avec des exercices simples, d'abord maîtriser l'exercice simple avant d'aller chercher un diagnostic compliqué. Par rapport aux épaules, l'épaule, voilà, je vais y revenir. C'est vrai que je suis désolé pour tous ceux qui écoutent depuis tout à l'heure, qui attendent l'épaule. Tu pourras probablement mettre pour l'épaule, c'est à partir de 45 minutes d'enregistrement pour qu'ils évitent la demi-heure sur le dos. Pour l'épaule. L'épaule, c'est un peu plus chiant parce que l'épaule, de mémoire, je crois qu'on a 19 muscles qui sont tout autour de l'épaule. Le supraépineux, le biceps, l'infraépineux, le grand rond, le petit rond, le grand dorsal, le grand pec, le petit pec, le sous-clavier. Bref, tout ça, ce sont des muscles qui peuvent être un peu compliqués et qui doivent être bien compris, à savoir tous les muscles de la coiffe des rotateurs sont principalement des muscles stabilisateurs. Si on commence à mettre ces muscles en contrainte sur des mouvements de renforcement, notamment à but de renforcement musculaire type hypertrophie, et qu'on saute des étapes, ce sont des muscles qui sont essentiellement tendineux. Et donc, si vous allez trop vite, trop fort, ce sont des muscles qu'au bout d'un moment, vous allez épuiser, fatiguer, et sur lesquels vous allez mettre un risque de développer une tendinite à la suite. Donc, finalement, toujours la même chose pour en revenir à ta première question. L'intérêt d'être capable de bien dissocier la rotation externe de la gléno-humérale du mouvement, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, la rotation externe de la gléno-humérale va avoir comme compensation le mouvement de sonnette médiale au niveau de l'omoplate. Donc, sonnette médiale, vous imaginez, vous mettez vos deux mains devant vous, Ça, ce sont vos deux omoplates. La sonnette latérale, c'est lorsque vous allez faire au niveau de votre omoplate droite un mouvement anti-horaire et la sonnette médiale un mouvement horaire. Et donc là, vous vous rendez compte que votre omoplate, elle est capable de glisser finalement un peu en rotation anti-horaire ou horaire. C'est le mouvement qu'on appelle de sonnette. Et donc, ces mouvements de sonnette s'accompagnent des mouvements de rotation au niveau de la gléno-humérale. Et donc, pour éviter de trop solliciter toujours et encore les mêmes tendons de la coiffe, il est important d'engager l'omoplate soit en sonnette médiale, soit en sonnette latérale. Est-ce que c'est des choses, c'est des mouvements qui vont parler à tes auditeurs ou pas, Théo?
Bah après, là, ça va. Disons que quand on fait des mouvements sous tension assez lourde, on ouais. on pourra pas trop. Enfin, par exemple, si je fais un développé couché, voilà. C'est verrouillé, quoi.
C'est ça, exactement. Donc, être capable de sentir, en fait, sur un développé couché, c'est un mouvement en charge lourde. Donc, ce ne sont pas vos tendons de la coiffe des rotateurs qui doivent réaliser le mouvement. Donc, sur un mouvement développé couché, le mouvement que vous devez sentir, ça va être principalement au niveau des pecs, au niveau des grands dentelés. Et pas au niveau, finalement, des épaules. Si vous êtes sur vos épaules, c'est que la charge est trop lourde pour vous et que vous allez chercher d'autres muscles, notamment des muscles stabilisateurs de finesse de la coiffe des rotateurs, pour être capable d'engager un mouvement de force. Donc, vous êtes en train, pour schématiser, qu'est-ce que je vais prendre? Vous êtes en train de vouloir peindre un tableau et au lieu d'utiliser un gros pot de peinture, ma métaphore est moche. Qu'est-ce que je vais prendre comme métaphore? Je vais pas faire de métaphore, je vais rester sur du concret. En gros, vous chargez trop lourd et vous mettez trop de contraintes sur vos tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, chargez un petit peu moins lourd pour être plus spécifique au niveau des grands pectoraux et des muscles forts plutôt que d'avoir besoin de recruter les muscles faibles.
D'accord. Donc, après, ça, c'est pour travailler, on va dire, enfin, pour travailler. Moi, en fait, ça tombe bien parce que c'est le plus difficile, comme tu disais. Enfin, c'est le plus compliqué, mais moi, c'est celle que j'ai réussi à traiter. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais coiffe des rotateurs plus ouais. longue portion du triceps bien inflammée au niveau de l'omoplate. Ouais. Donc, du coup, c'était très invalidant pour tous ouais. les mouvements d'épaule plus pectoraux. Ce qui a pour moi solutionné, c'est beaucoup, comme tu dis, en fait, de travail sur le mouvement des omoplates. Mais complètement à vide, c'est-à-dire que je faisais des pompes en me concentrant bien sur l'extension complète et la contraction, enfin de vraiment finalement de travailler, de ressentir les omoplates se déplacer pendant le mouvement et après beaucoup de travail de mouvement, on va dire de rotation externe avec soit élastique, soit même à vide parfois, ouais. juste avec le poids de l'avant-bras, tu sais, allongé sur le flanc là.
Ouais.
Pour essayer de ressentir finalement ce que t'expliquais au tout début de l'enregistrement.
C'est ce que j'allais dire, ouais.
Cette connexion un petit peu neuromusculaire pour récupérer un bon trajet. Parce que moi, c'était des années de, alors, pathologie d'usure plus peut-être une mauvaise posture, pendant des années, que j'ai dû corriger, quoi.
C'est ça. Et donc, tu vois, tu rebondis tout à fait sur ce que je disais, à savoir l'intérêt de la mobilité, c'est que tu as été capable finalement de t'auto-traiter parce que t'as pris le temps d'être à l'écoute de ton propre corps. Et c'est ce que je dis, finalement, du bon sens, c'est ça, c'est être à l'écoute de dire, OK, comment est-ce que je peux éviter les compensations? Comment je peux éviter de me faire mal? Par rapport aux tendinites, donc, j'avais fait une vidéo sur les idées reçues. Oui, tu me demandais les liens par rapport aux épaules. J'ai fait toute une semaine sur l'épaule sur Instagram et sur YouTube, sur une idée reçue par rapport aux tendinites. Pendant bien longtemps, on a traité les tendinites avec le repos. Et finalement, on se rend compte que, le traitement avec le repos ne fonctionne pas. Plus récemment, on a traité les tendinites d'épaule uniquement avec le travail des rotateurs externes, ce qui est très pertinent. Pourquoi? Parce que notamment sur les mouvements de musculation, on est principalement sur des composantes de rotation interne de gléno-humérale avec antépulsion des épaules. Donc l'antépulsion des épaules, c'est le fait d'avoir les épaules, vous savez, un peu enroulées vers l'avant. Un schéma qu'on retrouve beaucoup chez ceux qui font de la muscu. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus intéressant de bosser les pecs et d'être bien dessiné sur ce qu'on peut voir dans le miroir pour sentir les bénéfices de ce qu'on fait, parce qu'il faut pas se mentir, à un moment donné, quand on fait du sport, c'est aussi pour soi, pour se sentir bien dans sa peau, et que quand on se regarde dans le miroir, c'est quand même plus agréable de voir ce qu'on peut, les effets de tant d'heures et de tant de travail plutôt que ce qu'il y a dans notre dos et qu'on voit moins. Mais bref, par rapport à ce schéma en rotation interne et antépulsion d'épaule, finalement le travail en rotation externe et ouverture des épaules, c'est la position, pour que ça parle à tout le monde, c'est pas la plus jolie, mais de Jésus-Christ finalement sur la croix, à savoir les bras vraiment en rotation externe, les épaules fixées en arrière. J'ai pris ça parce que c'est une image qui va probablement parler à tout le monde. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui, le traitement qu'on préconise par rapport à la tendinite d'épaule, ça va être très simple, c'est reprise en charge progressive et sans douleur. C'est-à-dire qu'on va pas dire aux gens d'arrêter, on va pas dire aux gens de continuer exactement comme ils faisaient avant, mais on va dire par exemple à quelqu'un qui fait du développé couché, qui a des douleurs au niveau de l'épaule, dire bon bah voilà, t'as mal quand tu soulèves, allez, à 90 kilos. Est-ce que t'as mal quand tu soulèves à 80 kilos? Oui. Est-ce que t'as mal quand tu soulèves à 70 kilos? Oui. Est-ce que t'as mal quand tu soulèves à 50 kilos? Non. Ok. Est-ce que t'as mal quand tu fais 10 reps à 50 kilos? Oui. Est-ce que t'as mal quand tu fais 8 reps à 50 kilos? Non. Ok. Donc tu vas continuer à faire 8 reps à 50 kilos. Tant qu'il n'y a pas de douleur, on va continuer en fait à mettre en contrainte, mais une bonne contrainte au niveau du tissu conjonctif qui est le tendon et qui est le muscle, pour continuer en fait à solliciter le travail musculaire. Le travail de cicatrisation tissulaire passe par la mise en contrainte du tendon.
Et puis l'irrigation, j'imagine aussi la congestion apporte plus de nutriments, etc.
C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on revient pas mal au protocole de tendinite, de se dire bah finalement on préconisait le repos parce que on se disait bah c'est le fait d'avoir travaillé qui a engrangé des douleurs. Et puis finalement on se rend compte que ce qui fonctionne le mieux par rapport à la nutrition et à la cicatrisation, c'est l'afflux sanguin. Et l'afflux sanguin, il se fait par quoi? Par le mouvement. Et c'est pour ça que, pour le même principe, chez les personnes âgées, qu'est-ce qu'on leur fait? On les fait marcher pour la bonne et simple raison. Et quand on les fait marcher, ça permet l'afflux sanguin dans tout le corps et ça permet justement une meilleure nutrition de tous les tissus et de tout l'organisme. Donc, tu vois, finalement, parfois, on peut avoir du bon sens d'un côté, pas l'appliquer de l'autre. Et donc, toutes les études récentes par rapport à l'épaule disent que ce qui compte, c'est une reprise en charge progressive et sans douleur. Et donc là, la seule chose, la plus grosse barrière par rapport à ça, c'est l'ego. C'est-à-dire qu'un mec qui, pendant 10 ans, s'est entraîné et était en permanence sur une phase de progression, qui se retrouve à une blessure, d'être capable de dire, comme tu l'as fait, bon, bah, je reviens en arrière, le temps que ma blessure cicatrise pour pouvoir de nouveau augmenter. Et quand vous y pensez, c'est toutes les difficultés de la musculation, c'est que vous êtes un peu dans votre coin. Là où les sportifs professionnels, quand Cristiano Ronaldo, il se fait les croisés, bah, lui, il va pas décider de revenir sur un terrain au bout de 3 mois. Il a un médecin, il a tout un staff autour de lui qui lui dit, écoute, bon, il s'est pas pété les croisés, mais bref, on s'en fout. Il va lui dire, écoute, Cristiano, ton protocole, c'est ça qu'il faut que tu fasses et tu vas retourner sur le terrain au bout de 6 mois et pas avant.
Ouais.
Vous êtes tout seul dans votre coin, vous avez parfois des collègues qui vous racontent leur histoire. Je vais parler des Islanders au début de la session, les mecs qui se blessent jamais et qui vont dire, mais non, t'inquiète pas, te prends pas la tête, mon petit père continue et ça va passer. Vous avez votre médecin qui peut être parfois un médecin old school qui va vous proposer bah, le repos, mais c'est encore une fois, je lui jette pas la pierre. Hein. Faut toujours garder en tête que les médecins, ils ont une connaissance qui est énorme. Ils doivent savoir énormément de choses. Et donc, vous pouvez pas leur jeter la pierre s'ils sont pas forcément au courant sur le principe d'hypertrophie ou sur vos sessions d'entraînement. Ils doivent savoir tellement de choses que finalement, on peut les excuser parfois de passer à travers certaines questions. Parfois il peut se planter, hein, il reste humain, il peut vous préconiser du repos, il peut ne pas vous préconiser de la kiné, ou même vous pouvez aller chez un kiné qui, au même titre que le médecin, bah, est pas spécialisé là-dedans et va se planter sur le protocole. Et donc vous retrouvez un peu paumé à dire bon bah qu'est-ce que je dois faire? Et donc finalement toujours le bon sens, un protocole de remise en contrainte et sans douleur.
Ouais, mais ce qui est en tout cas ce qu'on note et ce que j'espère que les gens vont retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle qui proviendra de l'extérieur.
Exactement.
Et que là, il faut vraiment qu'il y ait un investissement personnel pour le traitement, la remise en forme, etc. Émotion. Et tu as parlé d'ego tout à l'heure par rapport au fait de moi par rapport à ce que j'ai dû faire, revenir sur mes acquis et puis repartir sur un nouveau schéma. Mais il y a une deuxième chose qui est très difficile à faire. C'est quand tu es à 140 kilos au développé couché et que d'un coup, tu dois t'entraîner à 50 kilos,
ouais.
Ça, c'est encore plus dur.
Ouais.
Une posture, quelque part, bon, la posture, si on pouvait la changer, ça nous dérangerait pas trop à partir du moment où on lève toujours la même charge. Mais revenir, de diviser ses charges par deux, ça, par contre, ça fait mal, quoi. Et puis, enfin, l'entraînement peut être moins motivant. Bon, moi, après, j'aimerais juste encourager les gens par rapport à ça. Je suis revenu aussi fort qu'avant.
C'est ça.
Et je suis pas un Highlander.
Exactement.
Voilà.
Donc voilà, t'as très bien résumé. C'est que ça peut être dur, mentalement c'est dur, et pourtant il faut continuer à être assidu. Encore une fois, je pense que vous pouvez, si vous avez besoin d'inspiration, motivation, vous trouverez pas mal sur YouTube ou même parfois sur Canal Canal Plus, des reportages intérieur sport où vous voyez vraiment le quotidien des sportifs de haut niveau, la gueule qu'ils font quand ils sont blessés. Bon, il y a tout l'enjeu financier évidemment derrière, mais c'est principalement la passion de plus pouvoir être sur les terrains qui est très très dur à faire. Donc ce qui pour eux ne plus être sur un terrain de football, bah c'est pour vous ne plus être capable de soulever 150 et pendant un temps d'être capable uniquement de continuer assidûment à travailler à 40 ou à 50 kilos. J'avais vu les Américains en parle énormément sur Instagram. Vous savez, moi, c'est principalement eux ma source d'inspiration. Il y a 3000 kinés américains qui font ce que je fais. Moi, là, actuellement, je suis un des rares. Et j'encourage n'importe quel kiné à le faire, à poster sur Instagram, justement, même s'ils sont pas d'accord avec ce que je dis par rapport au partage d'informations. C'est absolument passionnant et ça permet de faire des rencontres comme avec toi, Théo. Mais je me suis un peu perdu du coup là-dedans.
Non, mais tu parlais que tu suivais beaucoup les Américains,
voilà,
etc.
Les Américains, justement, par rapport à ça, où, ils disaient, lorsque vous êtes au-dessus de votre charge de travail, c'est un entraînement. Lorsque vous êtes équivalent à votre charge de travail, c'est une maintien de votre niveau. Quand vous êtes en dessous de votre charge de travail, c'est quand vous faites de la rééducation.
D'accord. C'est une belle image.
C'est une belle image.
Et ça permet, oui, de remettre les choses. Et puis, ça permet aux gens aussi. Il y a pas mal de gens qui écoutent là. Et ce soir, ils vont sortir de leur zone de confort à l'entraînement, je pense.
C'est ça.
J'aimerais bien. Alors, moi, j'ai noté. Parlons de la vie de tous les jours. Le travail sédentaire assis, ouais, nécessite-t-il des exercices particuliers pour équilibrer la posture et les tensions, relâchement?
Donc, par rapport à ça, je vais te répondre la même chose que je réponds aux patients qui viennent me voir. La réponse, elle est incluse dans ta question, finalement. Tu parles de travail sédentaire, d'un type qui est tout le temps assis, et évidemment que anatomiquement, l'être humain n'est pas fait pour être assis. Quand on est assis, on va venir mettre certains muscles en position courte, notamment le psoas, les abdominaux, et avoir un moins bon bras de levier au niveau des muscles postérieurs, notamment des spinaux, qui nous permettent de nous tenir droit. Donc, l'être humain n'étant pas fait pour être en position assis, lorsque vous allez vouloir passer de la position assis à debout, vous allez avoir finalement votre musculature qui est adaptée à une musculature de personne assise. Et finalement, ne serait-ce que le fait d'être debout va être pour vos muscles une sortie de la zone de confort et qui peut parfois déclencher des douleurs. Donc finalement, pour être capable de rester debout, qui plus est pour être capable de faire un entraînement, la position assise, c'est une position finalement dans laquelle vous allez, vous y êtes contraint par les besoins de la vie quotidienne, mais dans laquelle vous allez de temps en temps avoir besoin de sortir, de bouger. Donc ça va être tout simplement, disons, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, on s'en fout un peu du moment que vous le faites, une petite mobilisation de bassin, rétroversion, antéversion, inclinaison gauche, rotation, venir chercher au niveau de la chaîne dorsale. Ça aussi, j'avais mis une petite vidéo assez marrante, depuis la position assise, venir chercher de l'extension thoracique. On parle énormément de l'extension lombaire parce que c'est là où on a le plus d'extension de par notre lordose naturelle, mais venir chercher de l'extension thoracique, c'est aussi hyper important. Venir chercher de l'extension de l'inclinaison cervicale. Donc finalement, c'est du bon sens. Le fait que vous voyez, quand vous réveillez le matin et quand vous avez besoin de vous étirer, c'est la même chose. Vous faites les mêmes mouvements, répétez 10 fois le matin, le midi, le soir, et c'est parfait.
D'accord. Et moi, tu vois, par rapport au psoas, c'est pour ça que j'ai dû le travailler. L'étirer, les abdominaux, pareil. C'était finalement pour compenser un petit peu.
Une position assise.
Voilà. On va dire que pour moi, c'est devenu obligatoire. Toi, tu disais toutes les demi-heures, etc. Moi, je me suis engagé à le faire matin, midi, soir.
C'est ça.
Pour avoir, mais pas violemment, mais pour avoir, si tu veux, cet équilibre. Parce que j'avais remarqué que plus j'ai les psoas raides, alors là, je parle en même temps d'entraînement, en même temps de posture. Hein. Plus j'avais les psoas qui étaient raides, moins j'avais la possibilité de ressentir le bas de mes abdominaux se contracter lors de l'entraînement.
Ouais. Donc là, tu dis quelque chose qui est hyper intéressant.
Parce que j'arrivais pas à me décambrer, en fait.
Exactement. Donc en fait, le psoas, quand il est spasmé, alors ça peut faire débat. De manière générale, comprenons que le psoas, depuis la position debout, il est fléchisseur de rachis. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Théo, quand tu dis j'arrive pas à me contracter par rapport au psoas, mais je suis d'accord avec toi quand tu peux dire que finalement un psoas spasmé va venir chinter, c'est-à-dire couper tes afférences proprioceptives, et va faire en sorte que de toi-même tu vas pas être capable d'avoir une bonne position du bassin. Pas tout à fait la même, mais le résultat est le même. Donc le psoas, lorsqu'on est assis, il va venir maintenir une flexion de bassin, maintenir une flexion de hanche au même titre que les abdominaux. Et donc si on y passe 5-6 heures par jour en position assise, ils vont être finalement raccourcis et vous allez avoir plus de mal lors de vos sessions d'entraînement à réussir à les détendre, à les relâcher s'ils sont en permanence fermes. Je fais juste une petite parenthèse au niveau du psoas. On parle beaucoup de l'intérêt de l'étirement du psoas, on parle jamais de l'intérêt du renforcement du psoas. Là encore une fois, la posture, il faut bien comprendre que c'est du cas par cas. On ne va pas traiter de la même manière quelqu'un qui a des antécédents au niveau des hernies discales et quelqu'un qui a des antécédents de scoliose et quelqu'un qui a des antécédents de spondylolisthésis et quelqu'un qui n'a aucun de ces antécédents-là. La posture, je parle vraiment de très grandes lignes dans lesquelles on a des grands schémas. En effet, là, pour tes auditeurs, c'est exactement ce que on a le plus souvent l'habitude de traiter, à savoir quelqu'un assis qui veut s'entraîner. Mais on peut pas sortir des grandes idées reçues. Je dirais pas que 100% des gens ont besoin de s'étirer le psoas de la même manière que je peux pas dire que 100% des gens ont besoin de s'étirer des abdos. Donc, c'est intéressant par rapport à ça d'aller consulter un kiné, un ostéo, quelqu'un qui est formé en posture pour vous dire, voilà, vous avez besoin de vous étirer les abdos, vous avez besoin de vous, au contraire, de renforcer vos abdos. Ou au contraire, vous avez besoin de renforcer votre psoas. Donc, c'est toujours important par rapport à la posture de comprendre que c'est pas parce que ça fait du bien à 80% des gens que ça va vous faire du bien à vous. On est tous postus différemment. Certains sont très raides, certains sont normaux, certains sont hyperlaxes. Et on va pas traiter quelqu'un en posturo de la même manière quelqu'un qui est très raide et quelqu'un qui est hyperlaxe. Donc, c'est toujours un principe de bon sens, finalement, de sentir ce qui vous fait du bien. Bah, c'est que ça vous fait du bien. Si ça vous fait mal, et bah, c'est que c'est pas pour vous. Et allez voir un thérapeute qui pourra vous orienter pour vous dire exactement ce que vous devez faire.
Eh ben, super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait quand même un très gros podcast, 1h15. Les auditeurs, s'ils sont encore là, je pense qu'ils auront d'autres questions. Ils pourront nous contacter, j'imagine, sur Instagram ou sur YouTube. Ouais. Tu préfères être contacté par quel canal, d'ailleurs ?
Instagram. YouTube, malheureusement, j'y suis peu, uniquement quand je poste les vidéos. D'accord. Et surtout, alors ça, je vais peut-être un peu décevoir tes auditeurs par rapport à ça. Je reçois beaucoup de messages privés des gens qui me demandent des consultations. Vraiment, je reçois parfois des gens qui m'envoient des comptes rendus d'IRM. D'un point de vue éthique déontologique, je ne les lis même pas, d'accord ? J'ai pas le droit, c'est de la violation du secret professionnel. Je suis certes kinésithérapeute, mais ce que je donne sur les formats des réseaux sociaux, c'est du conseil. Malheureusement, je fais pas de consultation individuelle. C'est pas professionnel, c'est pas éthique, c'est pas déontologique. Ce que je réponds maintenant systématiquement, c'est bien simple, hein. Je fais un message qui est copié-collé, dit « Merci pour ton soutien ». Je t'encourage à aller voir le professionnel proche de chez toi ou habituel. Donc, je réponds aux questions qui sont très globales. Par exemple, quelqu'un qui va me dire « Salut, Major Mouvement, est-ce que tu as un conseil pour gagner en mobilité en squat ?» Ça me fait super plaisir. Et je vais me dire « Ok, va voir telle vidéo que j'ai postée. » Mais quelqu'un qui va me dire « Salut, j'ai eu une hernie discale par rapport à tel truc, j'ai entendu ceci », je dis « Merci pour ton soutien ». Donc, je fais une petite parenthèse. Je sais que ça peut décevoir certains, mais je préfère être tout à fait franc par rapport à ça. J'ai pas une démarche diagnostique, c'est pas professionnel. Donc, mais par contre, je lis tous les messages privés que je reçois. Et quelqu'un qui a une demande d'ordre vraiment très générale, je serais ravi de l'orienter.
Ben super. Ben écoute, merci pour avoir répondu à l'invitation. Je mets évidemment tous les liens pour retrouver ton contenu dans la description de cet épisode. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions également sous le podcast. Peut-être qu'il pourra y répondre. Et ben merci encore. Et puis ben sache que t'es toujours le bienvenu dans mes podcasts, quoi.
Ben Théo, merci beaucoup pour l'invitation. Je fais une petite parenthèse. Vraiment, je te remercie de m'avoir fait confiance. Tu m'as contacté très tôt, bien avant que ma chaîne commence à démarrer. Et ce genre de démarche, ça me fait hyper plaisir. Et donc vraiment, je te remercie du fond du cœur. C'est vrai que pour moi, le format Instagram me fait bien marrer, mais finalement, c'est plutôt du format sur la forme. Et là, sur un podcast d'une heure, on a pu rentrer dans le fond de pas mal de choses que j'avais envie de dire, qui sont parfois contestables. Et je suis tout à fait prêt à l'entendre. Mais en tout cas, merci de m'avoir permis d'avoir cette opportunité-là, de m'exprimer plus longtemps sur, en effet, des sujets qui me passionnent au plus haut point.
Eh ben non, mais c'était avec plaisir, sincèrement.
Bon, super, merci Théo.
À plus, salut.
Allez, salut.